Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu de retour après deux longues semaines d'absence, mais en fait c'est une émission qui n'est diffusée que toutes les deux semaines, donc c'est normal. Mais on a un programme hyper chargé parce que je dis les deux semaines étaient longues, il s'est passé énormément de choses. Le PlayStation State of Play, le Oculus Connect juste hier ou cette nuit, il y a eu un Xbox Insider, la sortie d'Apple Arcade, il y a le gros sujet légal du moment, la revente des jeux dématérialisés avec le procès entre l'UFC que choisit et Valve. Il y a des jeux qui sont sortis, Borderlands 3, Link's Awakening, il y a la Switch Lite qui est sortie, mais que de choses à traiter. Est-ce qu'on va seulement avoir le temps? Je ne sais pas, mais en tout cas, si on a une chance d'y arriver, c'est certainement parce que nous sommes avec J.K. Loret qui fait son grand retour après des mois d'absence dans l'émission. Entre parenthèses, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous recevoir dans l'émission. J.K., comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens?
Hey, salut, écoute, bah oui, effectivement, ça fait, c'est ce qu'on disait avant, ça fait depuis avril, quoi, je crois que je suis pas venu, alors que j'étais régulier, on va dire, avant. Ça va très très bien, peut-être que, voilà, si les gens me suivent un peu sur Twitter, je suis depuis maintenant quasiment un mois et demi chez jeuxvideo.com et je m'occupe de la tech et du hardware et voilà, je suis ravi, donc.
Je suis aussi
tout autant ravi de revenir dans le rendez-vous jeu, du coup.
Mais je suis heureux, moi aussi, que les choses se passent très bien pour toi dans ta vie personnelle et professionnelle, c'est magnifique. Et puis, surtout, que ton retour dans le monde du jeu vidéo fasse que tu puisses revenir dans l'émission. Tu m'avais manqué, hein, pour être honnête.
Ouais.
Donc,
ouais.
Merci de revenir avec nous.
Je suis content d'être là.
Et donc, comme je le disais, on a énormément de choses à traiter. Et la première d'entre elles, on va évacuer certaines choses rapidement. Le PlayStation State of Play, donc le Nintendo Direct de Sony, qui a eu lieu il y a deux jours de ça. Il y a eu plusieurs petites annonces, mais on ne va pas se mentir. Au-delà de la date de sortie de Wattam ou l'annonce de Humanity, qui est une sorte de jeu de puzzle bizarre avec des foules et de la physique par les créateurs de Tetris Effect. Wattam, c'est par le créateur de Nobinobi Boy et Katamari Damacy. La sortie de Civilization 6 sur PlayStation. La grosse nouvelle, c'était quand même la date de sortie de The Last of Us Part 2, qui est fixée au 21 février 2020. C'était la période qui avait été leakée, rumorisée ces derniers temps, et elle est confirmée début d'année 2020, sortie de The Last of Us Part 2, avec accompagnée par la disponibilité du remaster du premier opus sur le PlayStation Plus en octobre. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, je pense que c'est le moment ou jamais. Jeu, évidemment, mémorable, exceptionnel. C'était le jeu de la génération pour de nombreux joueurs et organes de presse pour la génération de la PlayStation 3. Donc, évidemment, les attentes sont élevées sur The Last of Us Part 2. Un commentaire sur cette date, moi, ça m'amène des réflexions sur la roadmap de Sony sur l'année 2020, mais est-ce que ça t'inspire quelque chose, cette date de sortie ?
Ah bah c'est cool. Enfin moi je suis absolument ravi de cette date de sortie, même parce qu'effectivement on l'attendait peut-être avant les rumeurs, peut-être un poil plus tard. Moi je l'imaginais presque pour le lancement de la PS5, tu vois, genre un jeu cross-gen. Même si je doute pas qu'il y aura peut-être une réédition sur PS5. Bon bref, on verra. Et surtout, tu disais quoi avant par rapport à ce que ça t'inspirait? Je voulais rebondir dessus.
Oui, pour la roadmap de Sony. Oui, voilà. Le fait qu'ils sortent leur dernière cartouche.
Effectivement,
quoi.
Bah ça va être un peu le baroudeur de la PS4. Je vois mal quelles grosses exclus vont avoir pour les mois à venir. Il y aura probablement des exclus sympas sur PS5 qui sortiront peut-être sur PS4.
Attends, je t'interromps, il y a Ghost of Tsushima qui n'est pas encore...
Exactement. Au moment où je disais ça, je pensais aussi à Ghost of Tsushima, mais qui est un peu sous le radar en ce moment. On n'a pas trop de nouvelles, même si je doute pas que. Mais peut-être que ce serait un exclu PS5, tu vois, on n'en sait rien.
Il n'est pas totalement impossible qu'il soit transféré. Voilà. Il est aussi possible qu'il sorte, on va dire, début d'été, fin d'été, un petit peu avant la sortie de la PS5. La rétrocompatibilité confirmée des prochaines générations de consoles avec la génération actuelle fait que ces sorties peuvent rester un petit peu fluides, quoi.
Exactement,
et surtout que la base installée des consoles à la transition d'une génération est toujours un petit peu un problème compliqué parce que l'ancienne génération a une base installée énorme et la nouvelle génération a une base installée beaucoup plus petite et donc les éditeurs hésitent généralement à sortir les gros jeux dès le début, donc là ça pourrait peut-être un petit peu régler le problème.
Oui, carrément. Non, c'est enfin moi j'ai une PS4 première génération, même pas la Slim, tu vois. Donc j'ai un peu peur de lancer le jeu dessus, en peur. Donc j'irai pas jusqu'à acheter une PS4 Pro, mais si je peux emprunter peut-être un modèle une PS4 Pro juste pour faire le jeu, tu vois. Parce que évidemment, comme beaucoup de gens, effectivement, en tout cas, enfin moi je suis genre PC, mais sur console, ça avec Red Dead Redemption, pour moi c'était le The Last of Us le premier, c'était le meilleur jeu de la génération, quoi.
Et justement, la pression sur le deuxième épisode est évidemment énorme. On n'a pas beaucoup plus d'infos sur le jeu lui-même, et c'est sans doute tant mieux parce qu'on en a déjà vu beaucoup. Et je pense que la plupart des joueurs aujourd'hui se disent « Bon, bah, nous montrez plus rien, on veut y jouer et on verra à ce moment. » Il y a eu un event, on sait, à Los Angeles où de nombreux journalistes et influenceurs ont été envoyés par Sony sans doute pour tester le jeu. Donc, on aura sans doute des impressions dans les mois à venir. Mais voilà, la date...
Ouais.
Et la date est donnée. Je dis les mois, ça va être sans doute être les jours ou les semaines.
Ce sera beaucoup plus court, je te confirme.
Oui, c'est demain, quoi, ou la semaine prochaine.
Tu verras, mais ce sera beaucoup plus court, effectivement. Mais par contre, la violence des 4 premiers mois de l'année, là, enfin, on dit ça, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois, mais là, entre Final Fantasy VII Remake, puis le mois d'après The Last of Us, puis un mois ou deux après Cyberpunk, déjà, et à quand je cite que ces trois-là, tu vois. Bon, ça va. J'espère que les gens vous avez des sous de côté parce que
il y aura de quoi faire. Oui, effectivement. Ouais. Et ce qui est marrant aussi, je note ça complètement entre parenthèses. Ça montre aussi que les formules d'abonnement ne sont pas l'unique option pour sortir des jeux, parce que ces gros jeux-là, évidemment, ils vont pas être inclus dans des formules d'abonnement. Et je pense qu'ils vont bien se vendre quand même. Donc bon,
c'est
intéressant. Donc voilà, évidemment, moi, ma réaction devant le State of Play à l'annonce de la date, c'était complètement. Ça aurait été quelle que soit la date d'ailleurs, mais c'est plutôt dans la fourchette basse de la lointitude de la sortie, donc j'étais content. Mais voilà, pour le PlayStation State of Play, rien d'autre de notable, je pense. Enfin, il y a d'autres petites choses, mais rien d'accord.
Oui, moi, je suis quand même curieux de Humanity, puisque le trailer est complètement débile. En même temps, je voudrais comprendre le concept. A priori, c'est un jeu multijoueur, enfin, un jeu en ligne. Ça a l'air assez dingo.
Je suis même pas sûr, que ça soit en ligne, si, peut-être.
Moi, on m'a parlé d'un aspect presque MMO, en fait.
D'accord.
Très, très étrange. Et moi, je suis assez curieux du mode story de Modern Warfare, parce que Call of Duty... même s'il y a clairement plein de mauvais épisodes, sur la partie solo, il y a eu quelques bons petits solos, et Modern Warfare, ça reste un peu leur... En tout cas, par rapport au premier, ça, c'est quand même un nom. Donc, et je trouve que la cinématique, enfin, les extraits qu'on a vus là, sont assez... En tout cas, techniquement, ça a l'air très, très beau.
Bah, je crois que c'est un petit peu la question que se posent tous les joueurs et les journalistes qui en ont vu un petit peu ou entendu parler. C'est où ils vont aller avec Modern Warfare, parce qu'on a l'habitude, de la part de Call of Duty, d'avoir des choses, c'est ce que je dis à chaque fois qu'on en parle, un petit peu controversé pour le principe, pour faire le buzz. Et il y a évidemment une opportunité quand on essaye de parler de la guerre de manière sérieuse et des conséquences et de la nécessité ou de l'aspect tragique des conflits armés. Il y a évidemment, c'est un sujet hyper sérieux, il y a une opportunité pour Call of Duty d'en parler avec le poids qu'ils pourraient. Et ils ont d'ailleurs des gens très sérieux au niveau de la narration qui ont rejoint l'équipe. Donc il y a cet espoir évidemment tempéré par le fait que, bah, historiquement, Call of Duty n'a pas forcément traité ces choses-là de manière la plus délicate qui soit.
Oui, donc, mais justement, pour contrebalancer, notamment sur World War II, je ne sais pas si tu avais l'occasion de faire la campagne solo, ils abordaient la guerre et des thématiques très, très compliquées. Ils abordent quand même de front, notamment à la fin du jeu, l'Holocauste et les camps de concentration. Et ils le font de manière, j'ai trouvé qu'ils le faisaient de manière très subtile et très, très, très intelligente. Donc bon, voilà, là dans le trailer, on voit qu'effectivement, bon, t'as toujours les héros barbus et musclés, mais d'un côté, t'as l'impression qu'ils s'allient avec une guerrière qui, a priori, une guerrière musulmane. Donc il y a là-dedans des personnages, on va dire, qui sortent un peu des archétypes habituels que tu peux avoir dans Call of Duty, donc...
Ouais, et puis il y avait des cinématiques qui avaient l'air bien réalisées, un jeu d'acteur qui était posé. Donc à voir, il est tout à fait possible que ça déraille, mais il y a effectivement cet espoir qu'on n'a pas l'habitude d'avoir avec Call of Duty. Donc à voir, je suis curieux aussi.
Je vais donner sa chance, clairement.
Ouais, 25 octobre, la sortie.
Ça arrive bientôt.
Bon, on va parler un petit peu de Takam et de hardware. Oculus Connect 6, c'est la conférence de Facebook / Oculus qui a eu lieu cette nuit. Donc les news sont toutes fraîches. Et il y a eu tout un tas d'annonces, tout un tas de choses. Mais la chose qu'on retient et qui va nous intéresser, nous gamers, c'est cette annonce absolument monumentale pour la VR, à mon sens, qui est la possibilité d'utiliser le casque autonome d'Oculus, l'Oculus Quest, qui est donc entièrement autonome, qui a en gros un processeur de smartphone à l'intérieur et une batterie et qui n'a pas besoin ni de connexion au PC, ni de connexion, ni sans fil, ni avec fil, ni rien. Donc, qui est complètement autonome. Donc, la possibilité d'utiliser ce casque, qui va arriver en novembre, de l'utiliser également comme casque filaire classique connecté à un PC. C'est-à-dire qu'on aura un câble USB-C qui va du casque au PC et on pourra l'utiliser non pas avec son matériel embarqué, mais avec les jeux et la carte graphique, etc., de notre PC, comme les casques de réalité virtuelle classiques, mais sans tout ce qui est les totems pour comme un Oculus Rift S, pour ceux qui connaissent. Et donc, ça veut dire qu'on aura l'option d'utiliser le Quest, qui est le casque, on va dire, qui amène la réalité virtuelle au plus grand nombre, comme un casque, entre guillemets, haut de gamme, qui se connecte au PC et qui donc bénéficie des performances d'un PC. Et donc, on n'aura plus la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on a à choisir entre un casque de performance moindre, mais entièrement libre et autonome, et un casque qui aura peut-être des performances un petit peu plus élevées, mais qui est connecté au PC avec tout ce que ça implique de contraintes. Donc là, on n'aura plus à choisir. Donc, de fait, je crois que l'Oculus Quest devient le choix idéal et qui risque de convaincre la plupart des prétendants à la réalité virtuelle. Quelques précisions en plus et puis je te donne la parole. Au niveau du matériel, l'écran, qui est ce qui importe finalement dans l'utilisation filaire, l'écran de l'Oculus Quest a une résolution légèrement supérieure à celle du Rift S, qui est celui qui se connecte au PC, donc, par défaut. Il a une résolution légèrement supérieure, beaucoup plus de contraste parce que c'est un écran OLED. C'est un écran OLED Pentile, donc avec une forme de pixel un petit peu particulière. Et il a une fréquence de rafraîchissement un petit peu plus faible. Je crois qu'on est à 70 images par seconde ou 80, au lieu de 80.
75, je crois.
75, 72 max, je crois. C'est
72 peut-être, oui.
Et pour bien sûr, le PSVR a une résolution beaucoup plus faible, mais une fréquence de rafraîchissement plus importante à 90 Hz. Je parle de la fréquence de rafraîchissement parce que c'est souvent un élément qu'on met en avant comme un avantage pour réduire les problèmes de mal de mer sur la réalité virtuelle. Mais bon, donc voilà pour les performances. Moi, ce que j'en retire, ce que je me dis, il faudra évidemment attendre les tests pour en être certain, les tests de comment ça fonctionne avec le câble, la connexion filaire sur le Quest, s'assurer que ça fonctionne aussi bien qu'un casque qui est prévu pour ça à la base. Mais ce que ça me laisse penser, c'est que du coup, bah, comme je le disais tout à l'heure, l'Oculus Quest devient le choix. Alors, c'est pas donné, hein, c'est 450€ pour la version 64Go, qui d'après tous mes retours sur Twitter sont largement suffisants, mais ça devient le choix idéal pour la réalité virtuelle, si ça fonctionne en tout cas. Est-ce que you conquer, docteur?
Non, mais bien sûr, mais moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est trop bien, enfin, parce que En fait, là, Facebook, enfin Oculus et Facebook, ils font un move assez intéressant. C'est qu'au lieu, contrairement à HTC avec le Vive, qui étend beaucoup le nombre de modèles différents, il y a le Vive Pro, le Vive Cosmos, il y a au moins 3-4 cases différentes chez Vive, on s'y perd un petit peu. Eux, ils décident, je pense, de miser finalement sur un seul. En fait, ils ont compris que la réalité virtuelle aujourd'hui, c'est un marché de niche, un marché encore embryonnaire, et que pour que ce marché prenne, il faut qu'il y ait un produit phare où les gens ne se posent pas la question. Aujourd'hui, en gros, si quelqu'un me demande, je veux essayer la VR, j'ai un budget de 400-450 €, qu'est-ce que je prends? Je lui dis, écoute, sauf si éventuellement tu as une PS4 et que tu veux tester sur PS4 pour un PSVR, sinon tu prends un Quest. Et en plus, si derrière tu as un PC, tu auras le meilleur des deux mondes, quoi. Et donc c'est vraiment un très bon move de la part de Facebook, qui aurait pu se contenter de sortir un nouveau casque à la fois autonome et à la fois filaire, tu vois. Enfin, là en fait, avec juste l'achat d'un câble, tu transformes ton Quest en Rift S. Et par contre, se pose la question effectivement de l'intérêt. Enfin, est-ce que c'est pas un move aussi volontaire pour tuer un peu le... Enfin, on se demande ce que va dominer le Rift S, en fait. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'acheter un Rift S, parce qu'il est au même prix? Alors peut-être qu'ils vont baisser le prix du Rift S, ce serait pas déconnant. Un Rift S à $300, par exemple, ça pourrait avoir son intérêt. Mais par contre, oui, c'est absolument, absolument génial comme idée. Et il y a eu... Il y a eu quelques sites américains qui étaient à la conférence, qui ont commencé à écrire des papiers, qui ont pu essayer ce câble Link là, et a priori l'expérience est très très convaincante. Il y a a priori, d'après ce que disait même Oculus, il y a une légère latence un peu supérieure que sur le Rift classique, le Rift S, mais qui est pas gênante à l'usage, voilà. Évidemment, parce que l'un des défauts du Rift, comme c'est un casque autonome, c'est qu'en général c'est 3 heures d'autonomie au maximum. Là, avec ce câble, précisons que le câble recharge le casque en même temps, donc vous n'aurez pas de problème d'autonomie, hein, bien sûr. Mais bon, c'était pas forcément évident. A priori, ça se connectera en USB-C, puisqu'il y a une prise USB-C sur le côté du casque. De l'autre côté, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est l'USB-C vers USB-C? Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut un PC avec un port USB-C qui
soit... Ça, je pense, ne serait-ce que pour le débit, j'imagine que c'est nécessaire, oui.
Ouais, ou du DisplayPort. Enfin, à mon avis, DisplayPort, ça me paraît compliqué. Bon, bref, on verra. Mais à l'usage...
Ouais, moi, il va falloir que j'achète une carte USB-C.
C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas équipé en USB-C. Sur un PC portable récent, oui, c'est le cas. Mais sur des fixes, c'est loin d'être le cas, hein, pour le coup.
C'est sûr. Mais bon. Mais c'est un accessoire. C'est les gens qui sont intéressés, je pense, par la connexion au PC de ce type de casque peuvent relativement facilement s'acheter une carte... pour avoir une... Moi, j'ai hésité sur le bouton acheter pendant quelques heures ce matin. Je pense que je vais hésiter encore quelques heures.
Tu l'as pas pris?
Pas encore. Mais je sais, je me connais. Je sais que ça va finir par je vais passer l'étape, mais... Ouais, je pense que... C'est pour le boulot, tu vois, mais c'est quand même effectivement un choix qui est beaucoup plus facile à faire aujourd'hui qu'il n'y a quelques heures même. Et puis, ils ont annoncé qu'en 2020, il y aurait une nouvelle mise à jour pour ce casque qui permettrait de contrôler les éléments du... Enfin, d'avoir une reconnaissance des mains. C'est-à-dire qu'on n'aurait même plus besoin des manettes pour interagir avec le monde, ce qui est également... Alors, ça ne sera pas forcément adapté à tout, mais ça fait que, comme le disait Zuckerberg dans sa présentation de la keynote, on est en train d'arriver à une étape importante de la réalité virtuelle où l'utilisabilité devient de plus en plus grande. On n'a plus besoin d'avoir des caméras ou des totems et maintenant 4 câbles différents et même des manettes. Bientôt, là, dans un horizon très proche, il suffira vraiment d'avoir le casque à la limite... Et puis, on aura des options. Donc, ça aussi, c'est un développement qui est intéressant à voir comment ça sera utilisé, bien sûr. Mais...
Ouais, et puis, encore une fois, ce qui est génial et même assez surprenant, c'est que tout ça sera gratuit. Ce sera juste de la mise à jour logicielle. Ils vont pas ressortir un nouveau produit qu'il va falloir racheter. Et c'est top, mais vraiment, je pense qu'ils ont vraiment compris qu'il fallait capitaliser sur un produit et le vendre pour pouvoir développer le marché, quoi. Et c'est vraiment, je trouve, la bonne méthode, quoi.
Ouais, on est d'accord. Et pour le coup, oui, je ne peux pas dire plus clairement à quel point le Oculus Quest, du coup, devient le meilleur deal pour ceux qui veulent tester la réalité virtuelle, qui, pour le coup, j'ai souvent conseillé le PSVR, qui est évidemment moins cher et qui est qui a des jeux sympas et qui est un bon moyen de l'essayer aussi. Mais il faut avouer qu'il commence à dater un petit peu, quoi. C'est techniquement un petit peu moins convaincant. Et puis, on avait mis... À sa sortie, il y a 3 ans, ça allait encore. Aujourd'hui, on est un petit peu moins... c'est un petit peu plus difficile de le recommander par rapport à la concurrence. La concurrence a avancé, on va dire, je dirais.
Oui, carrément, carrément. Oculus, là, prend une avance assez forte. D'ailleurs, même si c'est que dalle, mais sur les stats Steam, depuis, ça fait pas si longtemps que ça que l'Oculus Rift, alors j'imagine tout modèle confondu, est le casque le plus utilisé pour ceux qu'on l'avait sur PC, quoi.
C'est ça. Donc bon, à moins que vous n'ayez un besoin spécifique d'un autre type de casque, question de prix si vous voulez le PSVR, c'est toujours une bonne option. Question performance si vous allez du côté du Vive, du comment il s'appelle celui de Valve, le Index, c'est ça, ou le Cosmos.
Oui, le Valve Index, il y a le Vive Cosmos qui est le casque autonome, l'équivalent du Quest chez HTC. Mais enfin. Après, on va passer. Enfin, moi, je vais passer pour un fanboy Oculus, mais enfin, vraiment, ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont vraiment un écosystème qui est bien pensé. Ils ont leur store qui est rempli. Ils ont des bonnes exclusivités. Ils ont des jeux. Enfin, ils ont une sorte de politique plus à la Apple là-dessus. Alors, certes, du coup, ça fait un écosystème assez fermé, même si tu peux utiliser ton. D'ailleurs, ils ont confirmé que transformer ton Quest
accéder au jeu du Vive, PC, quoi.
Ça te permet d'accéder au jeu Steam VR, etc. Tu seras pas bloqué que sur le Oculus Store, mais vraiment, ils ont vraiment, je trouve, la bonne méthode, quoi.
Bon, on a effectivement pas mal d'enthousiasme pour cette annonce, mais on va continuer à avancer. Puisqu'on est dans les conférences, je vais passer rapidement sur la conférence Xbox Insider qui n'avait pas énormément d'annonces notables, si ce n'est que les tests du projet xCloud, le service de streaming de Microsoft, vont arriver dans certains pays, pas en France, ça sera les États-Unis, l'Angleterre et un autre pays, je ne sais plus, mais pas la France. Ils vont arriver, les tests publics, en octobre. Donc ça aussi, ça continue à avancer.
C'est 2020, c'est l'année du cloud gaming. Enfin, en tout cas, c'est l'an 1 du cloud gaming, a priori.
Tu sais, c'est assez incroyable parce que la news suivante dont on va parler, la sortie de l'Apple Arcade, amène aussi, et c'est un événement transformateur dans le monde du jeu vidéo. 2020, ça va être complètement fou pour le jeu vidéo, quoi. On a la nouvelle génération de consoles qui va arriver, le streaming qui commence à prendre ses marques, la VR qui arrive, on va dire, peut-être pas à la maturité, mais qui commence à arriver dans l'adolescence, les abonnements qui se font de plus en plus présents. Ouais, il y a l'industrie qui est en train de vivre et il y a plein de choses encore qui est en train de vivre des transformations massives qui vont se concrétiser là dans les mois à venir. C'est beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de choses intéressantes. Et justement, une chose qui, je pense, a surpris pas mal de monde avec la sortie d'Apple Arcade, c'est la qualité de cette initiative et les conséquences que ça a sur les jeux qui sont proposés dans ce service. Alors, je fais plein de prédictions à chaque fois. Enfin, évidemment, c'est notre boulot. On dit « Ah ouais, ça veut dire ça, ça va se passer comme ça ». Évidemment, je me plante une fois sur deux. Hein. C'est vous lancer une pièce, vous allez avoir... Bon, peut-être pas une fois sur deux, je vais être gentil avec moi. J'ai peut-être mes connaissances qui me permettent d'appréhender les choses, mais je me plante aussi comme tout le monde. Et là, je suis heureux de pouvoir dire que il se passe exactement ce que je pensais qu'il allait se passer avec l'Apple Arcade, c'est-à-dire que le business model de paiement fait que ça influence énormément le game design et que du coup, les joueurs que nous sommes, les joueurs traditionnels, console, PC, que nous sommes, y trouvent un petit peu plus leur compte, voire pas mal leur compte pour le prix de $5 par mois dans cet Apple Arcade, beaucoup plus que pour les jeux mobiles classiques, c'est-à-dire beaucoup de free-to-play, beaucoup de méthodes de monétisation qui ne nous plaisent pas forcément. On avait eu, au lancement des plateformes mobiles et à l'arrivée des jeux sur mobile, on va dire, quelques exemples de jeux qui auraient pu être intéressants. Et puis, petit à petit, j'irai à partir de 2013-2014, le modèle free-to-play s'est imposé. et les joueurs traditionnels se sont un petit peu détournés de cette plateforme. Là, avec l'Apple Arcade, on revient à un type de jeu qui peut profiter d'un paiement en une fois. Alors, c'est pas nous qui faisons le paiement en une fois, mais c'est Apple qui va donner une certaine somme aux développeurs pour contribuer au développement du jeu. Donc, ils ont cette assurance qui fait qu'ils n'ont pas besoin de se reposer dans ce type de développement sur des monétisations ultérieures au lancement du jeu. Et donc, on a des jeux qui sont pas trop mal, voire même carrément sympas. On a des jeux qui sont pas des, forcément, certains sont exclusifs à l'Apple Arcade et aux plateformes iOS. Certains sont exclusifs sur les plateformes mobiles. En gros, ça veut dire qu'ils peuvent sortir sur console ou PC, mais pas sur, Android. Mais dans l'ensemble, on a quand même des jeux qui sont plutôt sympas, disponibles sur iPhone, iPad, Apple TV et macOS. Donc, ça fait pas mal de macOS quand la nouvelle version de l'OS sera disponible. Donc, bon, c'est disponible sur plusieurs plateformes. Au final, les retours sont quand même très, très bons. Quelques jeux qu'on pourrait mentionner comme ça. Il y a... attendez, j'ai plus ma liste de jeux, mais il y a Sayonara Wild Hearts, dont on avait entendu parler. Frogger, je ne vais pas en parler, mais il y a What the Golf. Il y a, il y a vraiment plusieurs jeux qui sont juste des jeux intéressants, sympas, tout ce qu'on veut. Ils ne sont pas forcément les jeux de votre vie, mais qui sont des jeux auxquels on a envie de jouer, alors que c'était difficilement le cas aujourd'hui sur mobile, enfin avant l'arrivée de l'arcade. Est-ce que c'est ton impression aussi? Je sais que tu es plutôt sur Android, toi. Qui, entre parenthèses, juste une dernière chose, Google a annoncé également un système d'abonnement aux jeux et à des apps sur Android qui s'appelle le Google Play Pass pour $5 également. Donc c'est l'équivalent, mais il y a aussi des apps en plus des jeux sur Android, mais il y a moins d'exclusivité. Donc c'est un
ouais, type d'offre un peu différent. La plupart du temps, c'est des jeux déjà sortis, même s'il y a des très bons trucs. Hein. Il y a beaucoup de bons jeux et pour le moment, c'est dispo que c'est pas dispo en France en tout cas l'abonnement PlayPass. Mais pour en revenir à Apple Arcade, mais moi, écoute, j'ai quand même l'occasion de le tester parce qu'à la maison, j'ai un iPad Pro, donc ça marche nickel. Et je me suis abonné, sachant que le premier mois est gratuit en plus, donc ça permet vraiment de tester.
Ça motive, ouais.
Et c'est vrai, il faut reconnaître que le catalogue est vraiment, vraiment pas mal. C'est-à-dire que même si, imaginons qu'il n'y ait que la moitié des jeux qui valent le coup, ça fait quand même déjà quasiment 50 jeux intéressants à tester, quoi. Donc, c'est déjà beaucoup. Alors, effectivement, ça a eu Sayonara Wild Hearts qui a beaucoup été mis en avant, qui est très chouette. What the Golf qui est débile mais rigolo. Le nouveau Shantae, donc qui sont des petits jeux de plateforme un peu rétro, plutôt cool. Il y a Hot Lava qui est le nouveau jeu de Clay, donc les créateurs de Don't Starve, Oxygen Uncluded, Mark of the Ninja, tous ces jeux-là. Voilà, il y a un super catalogue. Après, moi, j'ai peur de l'effet pervers du truc, c'est que clairement, avec ça, ils sont aussi en train de tuer le jeu premium hors abonnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un développeur mobile sur Apple, sur iOS, qui va sortir son jeu hors abonnement, hors Apple Arcade à 3 ou 4 ou 5 euros, je vois pas comment il pourrait vendre son jeu, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les utilisateurs déjà qui étaient pas les utilisateurs iOS, même s'ils étaient un peu plus prompts à payer que ceux d'Android, là, en s'abonnant à Apple Arcade, je les vois mal en plus derrière ajouter 3, 4 ou 5 euros pour un seul jeu.
Ou alors, je suis pas convaincu, mais le truc c'est que
je me trompe, hein, mais
évidemment tu seras moins
cet effet pervers en fait.
Ouais, tu seras moins prompt à le faire, c'est sûr. Mais les développeurs d'un autre côté, le truc c'est que le jeu premium sur les plateformes mobiles, il était déjà en train de dépérir. Donc je suis pas convaincu que ça soit. Si tu demandes aux développeurs, alors peut-être qu'il y a un processus compliqué pour entrer dans l'Apple Arcade et que Apple va faire sa loi, c'est possible. Mais je pense que si tu demandes aux développeurs, ils préfèrent la situation avec un revenu garanti par Apple pour être dans l'Apple Arcade. On n'a pas les détails des contrats, mais on imagine que Apple paye une certaine somme pour un an, 5 ans de disponibilité dans l'Apple Arcade. Et c'est une source de revenus qui est garantie, plutôt que de jouer à la roulette russe sur la plateforme et d'essayer d'attirer des clients. Il y en a peut-être un ou deux développeurs qui tirent leur épingle du jeu, mais moi, tous les développeurs que j'aimais bien, ou presque, qui faisaient ce genre de trucs, je les ai vus disparaître un à un sur plateforme mobile. Et il en reste peut-être un ou deux, mais c'est hyper rare et la situation est hyper compliquée pour eux. Donc, je suis pas convaincu qu'ils préfèrent que si on leur donne le choix, je pense qu'ils iront dans un écosystème où l'Apple Arcade existe, mais je me trompe peut-être.
Oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Moi, peut-être que peut-être qu'au final, même si c'est pas forcément ça va sonner négatif, mais c'est peut-être un mal nécessaire, tu vois. Dans le sens où, de toute façon, le marché effectivement du jeu premium sur mobile, il est hyper compliqué. Donc du coup, effectivement, c'est peut-être la meilleure solution aujourd'hui. Mais évidemment que les devs indés, ils auraient préféré vendre dizaines de milliers de leurs jeux à 3 euros pièce, ouais, plutôt qu'être dans un système d'abonnement. Mais effectivement, la réalité du marché, c'est pas ça, quoi.
Ouais. Bon, bah donc une bonne surprise, et puis on espère de bons augures pour la suite sur le marché des mobiles. Je me demande si d'ailleurs Blizzard n'a pas retardé la sortie de Diablo Immortal pour l'adapter à la manette, puisque maintenant on peut utiliser des manettes PlayStation ou Xbox.
Ça, c'est trop bien depuis iOS 13 et iPadOS qui est toujours en bêta, mais ouais, c'est vrai que ça marche tellement bien. Enfin, moi, je l'ai testé là pour le boulot et ça marche ultra bien. Par contre, il faut préciser, pour la Xbox One, c'est pas n'importe quelle manette.
C'est les
manettes Bluetooth, les vraies manettes Bluetooth. Donc à partir de la Xbox One S, celles d'avant, elles sont pas Bluetooth en natif. Je crois qu'il faut un dongle, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, ouais.
Donc là, ça marchera pas. Mais par contre, si vous avez une manette récente, ça marche très très bien. Et c'est vrai que la majorité des jeux Apple Arcade que j'ai testés sont jouables à la manette. Et en plus, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner sur l'Apple TV, parce que là, du coup, ça va devenir une vraie petite console de salon. C'est plutôt chouette, quoi.
Oui, et puis il y a tous ces avantages qu'on évoquait à l'époque, c'est que pour les gens qui ont des enfants, c'est plus simple de prendre un abonnement à 5 euros qui couvre toute la famille en plus, et puis de dire à son gamin ou sa gamine, bah vas-y, joue à ces jeux-là, que de les laisser libres avec des jeux free-to-play qui sont un peu plus dangereux. Il y a de gros avantages, c'est certain. Il y a une autre chose que j'ai remarqué, et puis on va avancer, c'est un truc intéressant qui a été fait avec Exit the Gungeon, donc une sorte de spin-off de Enter the Gungeon, jeu bien connu, qui a un gameplay assez différent si on y joue au touch à l'écran ou avec une manette. C'est-à-dire que si on est en touch, on a des tirs automatiques qui vont viser l'ennemi le plus proche, donc ça va tirer directement. Et si on est à la manette, on est plus dans la méthode d'un twin stick shooter classique. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça me semble proposer une solution attrayante ou au moins intrigante au problème des méthodes de contrôle sur les jeux mobiles. Peut-être qu'il faut changer suffisamment le gameplay quand on est au touch pour que ça soit plus facile, parce que clairement, on a moins de contrôle précis au touch, même s'il y a des prodiges qui réussissent à jouer très bien à Fortnite. Et donc, avoir une sorte de mode, je ne vais pas dire mode facile, mais presque au touch, et puis un mode un petit peu plus challenging avec les manettes. J'ai trouvé ça vraiment pas mal comme solution à ce problème qui se pose à tous les développeurs de jeux, quoi. Bon, parlons un petit peu de revente de jeux dématérialisé. Gros sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques années, l'UFC Que Choisir a assigné Valve en justice au prétexte que les conditions d'utilisation de Steam et des jeux qui sont, entre guillemets, vendus sur le magasin Steam étaient illégales. Il y a un certain nombre de ces conditions qui ont été jugées comme effectivement illégales par la justice. La plus importante d'entre elles, il y en a d'autres qui seraient intéressantes, mais celle sur laquelle on va se concentrer, c'est celle dont vous avez certainement entendu parler, le fait que les jeux qui ont été achetés par les joueurs devraient avoir la possibilité... Alors non, c'est pas exactement ça. Valve ne peut pas s'opposer à la revente des jeux qui ont été achetés par les joueurs. C'est le point spécifique qu'a adressé le tribunal. Et ça ne veut pas dire que Valve doit tout mettre en place pour la revente des jeux, mais la conclusion logique de ce raisonnement serait qu'effectivement, il devrait y avoir des moyens pour revendre nos jeux numériques. Et je pense que la plupart des joueurs et des consommateurs, quand ils entendent ça, se disent « bah oui, bien sûr, les jeux physiques, on a le droit et la possibilité de les revendre facilement. » Ça pose des questions sur ce qu'est la propriété. C'est un élément fondateur de notre société et de la vie économique. Et donc, il faudrait que ces règles s'appliquent également à nos biens numériques. Il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas. Et je comprends tout à fait la logique, et je crois qu'elle a... Je ne suis pas 100% décidé sur le côté duquel je tombe, mais j'aimerais vous mettre en avant quelques arguments qui vont dans l'autre sens. Parce que les arguments qui vont dans le sens, oui, on devrait pouvoir revendre nos jeux numériques, sont très faciles à comprendre et je pense que tout le monde les maîtrisera. Mais pour moi, il y a un certain nombre d'éléments de réflexion qui font que la réponse n'est pas si simple qu'on aurait pu le penser. L'élément principal, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ce que je veux pouvoir faire avec mes jeux numériques, c'est d'aller sur le bon coin, comme je le fais avec un jeu physique, d'aller sur le bon coin, de dire « j'ai tel jeu à vendre, je l'ai acheté 60 euros, je vous le propose à 20 parce qu'il a déjà un an, est-ce que vous voulez l'acheter ? Ok, super, voilà, vous m'envoyez 20 euros, je vous transfère je vous donne le code du jeu et vous pouvez l'utiliser désormais. » Ok ? Bon, ça serait effectivement un résultat cool. Mais dans la pratique, c'est à mon avis pas du tout ça qui se passerait. Évidemment, étant donné que les jeux numériques ne s'altèrent pas, ils n'ont pas d'éléments physiques, donc il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'endommagement, c'est juste, ils sont tous absolument identiques, on arriverait à une situation où, je ne sais pas si certains d'entre vous, je suis sûr, se souviennent de l'hôtel des ventes de Diablo 3 à son lancement. Tu te souviens, JK, de l'hôtel des ventes, comment ça fonctionnait ?
Oui, bien sûr, je me souviens du fiasco que tu as été, surtout. Mais...
en fait, la manière dont ça fonctionnait...
J'imagine que toi, t'as suivi ça de l'intérieur.
Ah oui, de très très près, oui, je te confirme que c'était un moment sympathique, mais... La manière dont ça fonctionnait, je l'ai vu de près, c'est que, tout simplement, vous mettiez votre objet en vente. Il y avait, 10 000, 100 000 autres personnes dans le monde qui avaient cet objet également. Vous mettiez le prix et le système vous proposait de trouver, quand vous vouliez acheter cet objet, le meilleur prix. Et donc, vous n'alliez pas voir tous les prix ou ceux qui sont près de chez vous. Vous avez immédiatement accès à... toutes les copies, tous les gens qui veulent vendre ce jeu, et vous choisissiez non pas par des critères différents d'usure, de proximité, etc. Vous choisissiez simplement celui qui était au meilleur prix. Et le système était même automatisé pour faire ce genre de choses. Et je n'ai aucun doute sur le fait que si on a la possibilité de revendre nos jeux ou n'importe quel média numérique, les choses se passent finalement, ça prendra peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, ce que c'est, mais finalement de la même manière. Et donc, le fantasme ou l'idée ou l'image qu'on en a de « ah, je vais pouvoir le vendre à 20 euros », c'est complètement erroné. Même pour les vendeurs, je crois que ça ne sera pas forcément un si bon deal parce que on pourra évidemment, même aujourd'hui, si vous savez, avec les jeux physiques, quand on veut aller les revendre chez Micromania, je peux vous assurer que le prix vous décevra et vous fera repenser à deux fois si vous voulez le vendre ou pas. Mais là, ça sera encore pire. Il y aura toujours quelqu'un pour le vendre moins cher que vous. Les prix vont être complètement tirés par le bas. Et donc, oui, pour l'acheter à bas prix, ça sera peut-être un bon deal. Mais si vous pensez que ça va vous permettre de refinancer l'achat de vos jeux suivants, ça risque d'être une mauvaise surprise. D'autant plus, et c'est la deuxième partie de cette équation, et je vais finir là-dessus et je te redonne la parole, JK. D'autant plus que ce fait qu'on ne peut pas revendre les jeux numériques a été intégré à la chaîne de production et de vente des jeux vidéo aujourd'hui. Et donc, ce prix bas qu'on espérerait avoir avec l'achat en deuxième main d'occasion, ce prix bas existe déjà en fait, avec les soldes et les deals incroyables qu'on peut avoir quelques mois ou un an ou 2 ans après la sortie d'un jeu. Le marché s'est complètement adapté et donc on a déjà des jeux au prix de l'occasion, sauf qu'ils sont neufs et qu'ils rémunèrent le magasin, qu'ils rémunèrent le développeur dans l'écosystème. Donc, tous les bénéfices du fait d'avoir de l'occasion, la possibilité de revendre ces jeux, sont déjà intégrés au système. Et je ne suis pas du tout convaincu que le fait de pouvoir revendre les jeux une fois qu'on les a achetés bénéficierait au consommateur, ce qui est quand même le but ultime de toute cette opération. Le but, c'est que le consommateur ne soit pas floué dans l'histoire. Et je ne pense pas que ça se produise si on avait cette imposition, de cette possibilité de revendre les jeux. Alors évidemment, Valve a déjà fait appel. Je pense qu'ils vont faire autant d'appels qu'ils pourront et que cette histoire risque d'aller jusqu'à la Cour de justice européenne, que tous les vendeurs de jeux vidéo et de tous les médias vont s'y intéresser parce qu'ils ne voudront pas que cette décision soit prise de cette manière. Mais il n'empêche, si on y réfléchit à froid et de manière objective, je pense sincèrement que aujourd'hui, la situation a évolué de manière presque naturelle vers concrètement une situation qui bénéficie au plus grand nombre d'acteurs de l'économie, tant les consommateurs que les développeurs qui, eux, touchent de l'argent quand ils vendent ces jeux au prix, entre guillemets, de l'occasion, mais qui sont en fait des prix de solde. Donc, voilà les éléments de ma réflexion. J.K., qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu... Accuse-moi d'être un horrible capitaliste.
Je suis désolé, mais je ne vais pas forcément rajouter grand-chose, à part que je suis entièrement d'accord avec ton analyse. Enfin, oui, c'est clair que globalement, ce qui a été mis, enfin, les systèmes de soldes, et tout ce dont tu as parlé bénéficie à peu près à tout le monde. Et puis surtout, je vois pas, enfin, là, ok, c'est un effet d'annonce, le FC que choisir a gagné un contrat, mais techniquement, la mise en place d'un système de revente d'un jeu dématérialisé, ça me semble beaucoup trop compliqué à mettre en place. Enfin, je vois pas comment. Enfin, il pourrait bien sûr le faire.
Ça serait possible. Tu pourrais transférer une licence d'un compte à un autre. Si, c'est possible. Il pourrait le faire.
De toute façon, il va très certainement. Enfin, je crois que c'est officiel. Valve va faire appel. C'est un procès qui va durer encore des années. C'est vraiment. Enfin, je trouve que tout ça. Tout ça ne rime à rien, en fait. Enfin, tout ça ne rime à rien. Sur le principe, évidemment, qu'il lui fait que choisir des fonds les consommateurs et tout ça. Mais comme tu disais, est-ce que le consommateur avait vraiment besoin d'être défendu sur ce point? Ce serait vraiment intéressant pour le coup d'interroger les joueurs, notamment PC. Parce que, voilà, il ne faut aucun doute que, bon, sur PC, c'est déjà le cas, mais sur console, ça va l'être, finalement, dans un
futur. Ah, ça l'est déjà pour les jeux numériques. Les jeux achetés numériques, tu peux rien en faire.
Voilà. Et puis, surtout que les jeux physiques vont disparaître. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faut, il faut pas se voiler la face, quoi.
C'est marrant, ça me donne l'occasion de rappeler encore une fois que si certains me trouvent un peu trop pro grande société, je vous rappelle qu'à l'époque de l'annonce de la Xbox One, ou en tout cas quand j'ai commencé l'émission, l'une des choses que je disais, c'est que le mouvement de foule des joueurs contre la Xbox One était compréhensible, mais et dû en partie à la mauvaise communication de Microsoft, mais qu'il faisait aussi plein de choses intéressantes avec cette première version de la Xbox One et qu'on aurait dû regarder de plus près, comme par exemple le fait de pouvoir revendre ses jeux numériques ou prêter ses jeux numériques, etc. Et ça, c'est une chose qui a été complètement perdue dans la rage rouge des joueurs. Et du coup, voilà, ça dépend du contexte et c'était intéressant de s'y intéresser justement à l'époque. Et c'est une chose que je pointais du doigt aussi à l'époque. Donc, je suis pas d'un côté.
Non, mais oui, c'est ça. Et ça va avec tout ce qu'on a dit quasiment depuis le début. C'est-à-dire, on va vers de toute façon un système de consommation des jeux vidéo et de la culture en général qui va être beaucoup basé sur le dématérialisé, sur l'abonnement surtout. Donc,
les choses évoluent au-delà de
dans ce cadre-là, le physique et l'occasion.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, effectivement, il n'y a plus de notion d'occasion sur le dématérialisé. Fatalement est amené à disparaître. Et voilà. Et l'objet en lui-même, en tout cas, en tant que le bien culturel, donc la musique, la vidéo, le film et le jeu vidéo, c'est vrai que, on va vers ça. Et c'est difficile je pense qu'on peut difficilement lutter contre ça. Alors, l'UFC que choisir essaye de. Je sais pas, essaye de faire quelque chose, mais je pense que c'est complètement utopique de se dire que ça va aboutir à quelque chose d'intéressant, quoi.
Bon, l'UFC que choisir est dans son rôle, ils font un petit peu
bien sûr.
Oui, mais je veux dire, ils en font un petit peu aussi une grosse patate parce que c'est une grosse victoire, donc évidemment, ils veulent le publiciser. Et quand je dis ils sont dans son rôle, c'est un rôle qui est nécessaire. Je pense qu'il est important qu'on ait des organisations de ce type qui défendent les consommateurs, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on est en train d'arriver dans un système où la propriété de biens numériques est de moins en moins présente parce que les modèles évoluent. Ceci dit, on avait cette discussion dans le rendez-vous tech, donc merci à vous si vous écoutez les deux. Et on est arrivé à une conclusion qui était, je pense, intéressante aussi, qui est que à défaut d'autre chose, il est peut-être important de préciser ce que veut dire le fait de vendre ou d'acheter un bien numérique et de préciser ça. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué de manière un petit peu naturelle et organique. Mais quand on achète un bien numérique, notamment un jeu sur Valve, on n'a pas ce qu'on pense avoir instinctivement. On a une licence d'utilisation d'un jeu et peut-être qu'il faudrait que Valve soit plus clair sur ce fait, ou alors que on redéfinisse effectivement ce que veut dire la vente. Il y a une réflexion qui est presque une réflexion philosophique à ce niveau qu'il est peut-être nécessaire d'avoir. Et je pense que cette dichotomie, cette déconnexion entre la signification du mot vente et la réalité de ce que ça veut dire dans l'espace numérique sont peut-être intéressants ou importants à décortiquer. Mais oui, concrètement, je crois que l'autre élément qui était important à noter aussi, il y a plein de jeux qui sont à 15, 20 euros. Les jeux qui sont à 70 euros, leur prix, je pense, est déjà le prix plafond. Donc, je ne pense pas que ces jeux augmenteraient, même si cette décision était mise en place. Mais il y a plein de jeux de développeurs plus modestes ou des petits jeux de grands développeurs à des prix plus bas qui, je pense, mécaniquement augmenteraient. Parce que y aurait ce problème de revente ensuite qui serait un manque à gagner pour les développeurs. Les jeux à 15 euros pourraient passer un petit peu plus cher, par exemple. Il y a un autre problème que pointait du doigt Exerve, notre ami Benoît, sur Twitter, c'est que ça décuplerait les problèmes de G2A, qui est un site de revente de jeux avec un marché gris qui est difficile à contrôler et qui pose des problèmes très réels, non seulement aux aspects légaux de cette affaire, mais aussi aux développeurs, et surtout aux développeurs, et pas forcément les plus gros. Donc c'est un sujet qui est très compliqué et qui m'amène encore à cette réflexion que peut-être que la situation qu'on a aujourd'hui, concrètement, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais la vente, c'est important, le bien fondamental, le droit fondamental constitutionnel de la propriété, machin. » Oui, je suis d'accord. Mais au-delà de l'idéal philosophique, je serais curieux de savoir concrètement ce que ça amènerait aux consommateurs. Et encore une fois, si votre idée, c'est que on va pouvoir revendre un jeu, donc l'utiliser pour réduire le prix du jeu suivant, je pense que c'est une fausse idée. Parce que le prix du jeu suivant risque d'augmenter si c'est un jeu qui n'est pas déjà à 70 euros. Et le prix que vous allez pouvoir retirer du jeu que vous allez revendre sera plus bas que ce que vous pensez. Donc, est-ce que le bénéfice est vraiment là ? Bref.
Non, oui, effectivement, je pense qu'on est plutôt d'accord sur ton analyse, c'est juste. Et puis même, il y a le problème aussi du manque à gagner pour le développeur, quoi. Enfin, quand on parle de jeux indépendants, et effectivement, sur de la revente de cases, alors peut-être que Valve pourrait trouver un système où il reverserait une partie de la vente d'un jeu d'occasion au développeur, mais...
Oui, c'est ce qu'ont suggéré certaines personnes. Et ils disaient, oui, peut-être qu'on pourrait trouver un système où on reverse une partie au développeur, le magasin lui-même prend une partie aussi. Ok, mais en fait, on est juste en train de recréer artificiellement avec du scotch et du chewing-gum, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire le prix des jeux baisse avec les soldes, donc c'est, comme je le disais tout à l'heure, ça couvre le marché des jeux d'occasion au niveau des prix, et aujourd'hui déjà, les développeurs et le magasin chopent une partie des sommes. Donc, on est en train de recréer ce qui existe déjà. Est-ce que c'est vraiment... Sujet complexe, je suis sûr que certains d'entre vous auront des avis différents et je serai heureux de vous entendre en parler sur frenchspin.fr. Venez nous dire vos commentaires.
Surtout une affaire qui, à mon avis, on va encore entendre parler pendant des années avant qu'il y ait quelque chose qui change.
C'est sûr, c'est pas pour tout de suite. Bon, voilà pour nos gros sujets d'actu. On a des jeux et une console dont on veut vous parler. JK, tu as eu une Nintendo Switch Lite entre les mains.
Tout à fait.
Tu es convaincu, tu es amoureux, en fait, dis-moi tout.
J'étais tellement convaincu que j'en ai acheté une pour moi avec mon argent. Hein. J'ai pas demandé à Nintendo de me l'envoyer, tout ça, parce que je suis pas un journaliste qui profite de mes privilèges. Non, alors en fait, écoute, moi, la Switch Lite, quand elle a été annoncée, j'ai levé un sourcil, je dis ok, pourquoi pas, bon, une Switch Lite que tu branches pas sur la télé. Ok, bon, c'est vraiment pour un public très particulier, etc. Et puis, je me suis rendu compte que moi, ma Switch, je l'utilisais à 99% du temps en portable et jamais en docké. Ça me venait, voilà, je ne joue qu'en portable. Et du coup, quand je l'ai reçu, quand jeuxvideo.com en a reçu une, je l'ai eu dans les mains, etc. Et non seulement, effectivement, bon, elle est plus petite, elle est plus compacte, etc. C'est une Switch plus petite. Mais surtout, je trouve que c'est vraiment la console portable que doit être la Switch. Parce qu'ils ont revu, en fait, en plus des mensurations, ils ont amélioré quasiment en tout point la prise en main. Les sticks, les boutons qui sont plus agréables, les gâchettes qui cliquent mieux, une vraie croix directionnelle. C'est vraiment un plaisir. Alors certes, l'écran est un peu plus petit, mais à l'usage, c'est pas gênant. Et du coup, comme c'est la même définition d'écran, donc du 720p, bah, l'image est un peu plus fine.
Oui, j'ai entendu plusieurs personnes dire avoir ce trait de génie auquel je n'aurais jamais pensé, une sorte d'utilisation intelligente de la technologie moderne. Des gens qui ont dit, bah oui, l'écran est plus petit, donc on la met un peu plus près des yeux.
Oui, peut-être. Je sais pas si je joue plus près que la précédente, mais et en plus le fait qu'elle soit d'un seul bloc, bah elle a l'air beaucoup plus solide, parce que moi ma Switch classique, bah les Joy-Con des fois ils bougeaient, des fois même ils se détachaient tout seuls. Enfin, il y avait un côté un peu cheap, je trouve, sur la précédente Switch. Mmh. Donc voilà.
J'ai entendu, je t'interromps une seconde. J'ai entendu qu'il y avait un problème de drift déjà sur.
Écoute, oui, j'ai lu ça effectivement. Alors moi je n'ai heureusement pas pour le moment en tout cas. Sur ma Switch, sachant que je l'ai eu sur la précédente, sur la Switch d'origine. Mmh.
Pour ceux qui n'ont pas le problème de drift, c'est que les Joy-Con, quand ils sont en position neutre, ils bougent quand même un petit peu. Enfin, ils sont pas centrés, donc ils font bouger le personnage. Ou c'est un problème qu'a la Switch classique. Et on a eu déjà quelques vidéos, mais on ne sait pas si c'est des cas très isolés ou si c'est effectivement.
Ce qui est problématique, c'est que sur la première Switch, bon, au pire, tu rachètes des Joy-Con, c'est pas très grave. Enfin, c'est emmerdant, mais bon,
oui,
voilà.
Ça coûte un peu cher, mais oui.
Vu que c'est une console portable et que les Joy-Con sont soudés, enfin il n'y a pas de Joy-Con en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'espère que je vais pas avoir ce problème, mais extrêmement convaincu par cette console parce que en fait maintenant la Switch c'est devenu ma machine avec le PC, mais même peut-être encore plus que le PC, c'est devenu ma machine de jeu principale parce que vu le catalogue de dingo qu'il y a quand t'aimes les jeux, notamment les jeux indés, etc. C'est un plaisir quoi, c'est un plaisir. Et voilà. Et en termes d'autonomie, elle est à mi-chemin entre la Switch de première génération et la nouvelle Switch qui est sortie cet été, tu sais, avec une révision de la puce. Mm-hmm. Donc en gros, elle est plutôt très correcte sur Zelda par exemple. Breath of the Wild, j'ai fait un test, on arrive à un peu plus de 3 heures d'autonomie, alors qu'on faisait un peu plus de 2 heures sur la première Switch. Donc on gagne au moins une heure d'autonomie. Donc ça reste toujours faible pour une console portable, on va pas se mentir. Mais sachant qu'il y a de vrais écarts, par exemple sur Super Mario Maker 2, l'autonomie est quasiment 2 heures supérieure à Zelda. Mmh.
Zelda, c'est un petit peu le test le plus sévère, quoi.
C'est le benchmark pour la Switch Lite, c'est quasiment l'un des jeux les plus gourmands. Donc mais c'est pas le cas de tous les jeux, quoi.
D'accord.
Donc, vraiment, en plus pour 200 euros, tu dis, bon, le prix est quand même assez honnête. T'as quand même une console portable très qualitative avec un catalogue de jeux qui est déjà ultra fourni. Moi, je suis très content. L'écran est un petit peu. En fait, j'ai remarqué que l'écran avait une colorimétrie différente. Alors, on aime ou pas, c'est-à-dire que le blanc est beaucoup plus gris, presque jaune. Mmh. Il est moins éclatant. C'est a priori la même luminosité que sur le premier écran, mais c'est pas tout à fait la même colorimétrie. Encore une fois, dans les jeux, bon, on s'y fait rapidement, il y a pas de souci, quoi.
Oui, je crois que c'est le genre de choses que tu remarques si tu as les deux l'un à côté. Exactement, de l'autre, oui, mais voilà, oui, bon, quand tu... Ouais. D'accord, donc agréablement surpris de la Switch Lite alors que tu étais plutôt intéressé. Donc, bonne surprise.
J'étais intéressé, mais je pensais vraiment pas m'en acheter une. Vraiment, je me suis dit, bon, ok, c'est super pour les gens qui veulent une console pour mon portable. Et en fait, je me suis rendu compte que moi c'est vraiment la
que toi aussi, tu voulais une console portable.
Ouais, et c'est vraiment ultra agréable. Là, je l'ai dans les mains, tu vois, c'est vraiment ultra agréable à prendre en main, quoi.
Bon, t'as aussi, tu me disais quoi, une heure et quart aller, une heure et quart retour pour le boulot,
ouais,
donc
voilà,
ça joue. Voilà.
Moi, j'ai du transport en commun, donc autant te dire qu'une Switch Lite, elle est rentabilisée, quoi.
Ouais, je comprends. Bah super, donc thumbs up pour la Switch Lite.
Ouais, et préciser qu'on peut, on peut aujourd'hui en plus avoir deux comptes sur deux Switch différentes, le même compte sur deux Switch différentes. Enfin, ça nécessite quand même d'avoir l'abonnement online hein, pour être tranquille, pour avoir tes sauvegardes dans le cloud. Sachant que donc en gros, tu as ta console principale qui va être ta Switch Lite par exemple, que tu pourras jouer offline, etc. Et je crois que ta deuxième console peut servir de console en gros secondaire avec les mêmes jeux et tes sauvegardes. Sauf que je crois que tu dois être toujours connecté à Internet pour cette machine.
C'est
par exemple,
ça, ouais.
Si vous avez votre ancienne Switch que vous utilisez en mode docké, du coup. À la maison, perpétuellement connecté au net, bah vous pouvez passer sur la Switch Lite tranquillement en récupérant vos saves et vos jeux, quoi.
C'est un petit peu compliqué à mettre en place, d'après ce que je comprends, mais une fois que c'est mis en place, ça fonctionne.
Voilà. Faut pas non plus trop demander à Nintendo sur ce point.
C'est ça.
Donc déjà on peut transférer un compte et avoir deux comptes sur deux, enfin, le même compte sur deux consoles, c'est déjà un miracle, quoi.
Ouais, c'est dans ce contexte qu'on peut penser que c'est pas trop mal, mais oui, c'est pas trop mal pour Nintendo. C'est possible.
Pour Nintendo, ouais.
C'est ça, ouais, exactement. Bon bah super, merci beaucoup pour cette petite description de la Switch Lite. Parlons un petit peu de jeux auxquels on a joué et commençons. Bah, tu as joué à Link's Awakening, je crois.
Ouais, j'ai commencé là-bas. J'ai craqué évidemment au moment où j'ai acheté la Switch Lite. Bah, j'ai pris Link's Awakening avec parce que c'était le voilà. j'ai commencé à y jouer.
Ils savent ce qu'ils font hein, du côté de Nintendo. Ah, oui. Ils sont pas bêtes.
J'ai commencé à y jouer, je ne connais pas le jeu original, je n'y avais pas joué, donc pour moi je découvre un nouveau Zelda. Alors c'est marrant de revenir à un Zelda ultra classique en termes de mécanique de jeu après Breath of the Wild, mais en même temps ça a ce côté un peu rafraîchissant, pas rafraîchissant, mais justement un peu nostalgique en disant bon voilà, un bon vieux Zelda à l'ancienne. C'est super joli, enfin, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, il y a un effet... pas bokeh, mais sur le décor, mais il y a un effet de flou qui fait qu'on a l'impression d'être sur un petit truc de miniature. Malheureusement, techniquement, et c'est vrai que je l'ai constaté, étonnamment, c'est assez peu fluide. Le jeu a des problèmes de performance.
Alors, des problèmes de FPS sérieux, ouais.
Ouais, en extérieur.
Enfin, sérieux. Ça reste jouable.
Sérieux, mais voilà, ça reste jouable, mais il y a régulièrement des ralentissements en extérieur. C'est un peu dommage. Bon, ça gâche pas le plaisir de jeu, mais c'est un petit peu dommage. Mais, c'est chouette. Et en fait, c'est un Zelda qui est, d'après ce que je vois et ce que j'en ai lu, c'est que c'est certes un Zelda classique en termes de mécanique de jeu, mais en termes d'univers et d'ambiance, etc., était très différent. Et c'est vrai que c'est assez différent en termes d'écriture et tout ça, de ce à quoi on est habitué, quoi.
Ouais, c'est un petit peu, moi aussi, j'y ai joué quelques heures et c'est un petit peu. C'est ça, c'est rafraîchissant de revenir à un monde plus simple. C'est vraiment, même au niveau du game design, on va pas se mentir, c'est hyper... en anglais, on dit straightforward. C'est simple. Tu sais que tu dois obtenir un objet pour continuer à avancer. C'est le Zelda de l'époque, comme il était designé à l'époque, avec un joli skin dessus. Mais c'est vraiment la formule hyper classique, qui fonctionne si on est client de ce genre de choses, et personnellement c'est mon cas, mais c'est juste sympathique, rafraîchissant, des petites améliorations par rapport aux versions de l'époque pour que ça soit plus facile à prendre en main, mais vraiment un Zelda classique avec tout ce que ça a de cool. Je sais pas qui pourrait ne pas aimer Zelda, donc je vais pas ajouter avec ce que ça a de contraignant aussi, parce que évidemment Zelda est une série à peu près parfaite, mais oui, c'est un Zelda sympa qui est disponible au bon moment pour la sortie de la console, quoi. de temps en temps, moi, j'ai ces moments où je me dis, ah bah, je me referais bien un petit Mario ou je me referais bien un petit Zelda. Et il y a toujours un jeu à ce moment. Pour... Je me souviens qu'à l'époque, avec la 3DS, j'avais fait Link Between Worlds, qui était pareil, un trip super sympa, Zelda classique,
c'est
ce qu'on veut.
Excellent, ouais. Pour c'est l'un des meilleurs Zelda classiques, je trouve, récent. En tout cas, c'est vraiment très, très bien, Link Between Worlds.
Et je dirais que celui-là est encore plus basique.
Oui, voilà, mais c'est un remake. C'est un remake, et en plus, c'est un remake visuel qui a été bizarre. C'est une refonte visuelle totale, mais en termes de game design et de gameplay, c'est, pour le coup, c'est un remake casse par casse.
Ouais, complètement, ouais. Donc voilà, Link's Awakening, quand même, moi, un jeu que je recommande si c'est votre trip. Il y a un autre jeu dont je voudrais parler. C'est marrant parce qu'on a presque les mêmes descriptions. Et ma conclusion est presque la même, mais pas tout à fait. C'est Borderlands 3, qui est lui aussi un jeu qui est très proche des précédents dans la série, on va dire, qui ne prétend pas autre chose, mais qui laisse un goût un petit peu plus amer dans ma bouche, pour des raisons que... Je ne saurais pas exactement expliquer. Je pense que d'une part, je suis moins méga fan de la série Borderlands, donc ça me parle un petit peu moins. Il y a aussi le fait que, mine de rien, ce jeu-là arrive... Quand est-ce qu'il est sorti, Borderlands 2? Je ne sais plus.
2011, 2012, je dirais.
Ouais, c'est Borderlands 2. Alors, 2009, c'était le premier, 2012. Donc, on est 7 ans après le dernier épisode principal. On ne va pas compter de pre-sequel. Il y a des jeux qui, soit on sort une suite qui est similaire au jeu précédent, mais on le sort relativement vite, si c'est juste une petite évolution. Soit si on attend plus longtemps, je pense qu'on comprend qu'on voudrait attendre quelque chose d'un petit peu plus évolué. Mais en même temps, Gearbox est vraiment dans une situation particulière où ils sont tellement plantés avec Battleborn qu'ils avaient besoin d'un truc qui était un coup sûr. Et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné parce qu'ils en ont vendu des pelletés. Ils avaient une quantité, enfin, je crois qu'ils en ont vendu quoi, 5 millions, quelque chose comme ça.
Ils ont communiqué sur 5 ou 6 millions, alors c'est peut-être, j'imagine, des précommandes, enfin pas des précommandes, mais de jeux shippés, quoi, parce que c'est peut-être un peu tôt pour avoir des vrais chiffres de vente. Mais je me suis étonné, en fait, qu'il y ait eu autant d'attentes autour de jeux, en fait, au final, quoi.
Bah, il y a des fans, hein, il y a des fans qui sont très fans. Et ils sont très contents. Et je dois avouer, même si j'ai été un petit peu dur dans ma description, qui, je pense, est juste, mais ça n'empêche pas que le jeu est quand même, j'en arrive au cœur du truc, le jeu est quand même super bien. Moi, j'ai pris énormément de plaisir dans les quelques heures que j'ai passées, je dois être au tiers du jeu. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est un super bon jeu. Et ce que je disais, alors je disais presque la même chose sur Zelda et Borderlands et sur Gears 5 la semaine dernière, enfin à l'épisode précédent, donc c'est marrant de mettre tout ça en parallèle, mais malgré tout ce que j'ai dit là, le jeu reste un jeu de très bonne qualité. Il a des gros avantages ou des choses pour lui. Pour détailler un tout petit peu, moi je pensais que l'humour du jeu, je l'ai dit suffisamment de fois dans cette émission, l'humour allait me rebuter un peu. Et en fait, je ne sais pas si c'est moi qui ai un esprit d'adolescent ou juste pour ce jeu, il se passe un truc et je trouve que ça marche assez bien. C'est de l'humour couillon, mais c'est un petit peu prout-prout parfois. Mais... moi, ça m'a fait sourire systématiquement, ou peut-être pas systématiquement, il y a quelques blagues moyennes dans le lot, mais franchement, ça m'a fait sourire, ça a fonctionné avec moi. Un truc qui m'a surpris, c'est qu'il y a une représentativité des femmes qui est vraiment importante sur la période où j'ai joué. Genre, 90% des personnages principaux, bah, c'est des femmes. Et même parmi les deux jumeaux, bah, c'est la sœur qui est la plus mise en avant. Donc ça, c'était un truc auquel je ne m'attendais pas d'un jeu comme Borderlands, qui est un petit peu bas du front, généralement. Le seul point qui est peut-être un petit peu en retrait pour moi, et qui est personnel, c'est le gunplay, le gunfeel, où les armes, je trouve, sont un petit peu ramassées, un petit peu similaires. Les armes de poing, les pistolets, bah, ressemblent un petit peu à des mitrailleuses ou des mini, des Uzi, des trucs comme ça. À un moment, j'ai eu un gros fusil à pompe. Je me suis dit, ah super, là, je vais enfin pouvoir détruire mes ennemis en deux coups. Bah non, les ennemis, ils prennent quand même les ennemis de base. Il faut bien 5, 6, 7, 8 coups pour... même avec un gros fusil à pompe. pour les choper. J'ai eu un sniper, un fusil sniper. Je me suis dit, OK, là, c'est bon. Je vais me mettre un peu loin et un headshot, ça va régler l'affaire. Bah non, il faut quand même. Alors, c'est peut-être l'arme que j'avais spécifiquement, mais il faut quand même y mettre, pareil, 5, 6, 7 coups dans la tête pour les tuer. Il faut généralement recharger trois fois pour tuer deux ennemis. Bon, c'est un gunplay qui est spécifique. Moi, venant d'univers comme Destiny ou Doom, où chaque arme a vraiment un feeling hyper différent, hyper spécifique et son propre plaisir. C'est un petit peu les armes, un petit peu comme des personnages de jeux de combat. C'est une référence à laquelle je reviens souvent parce que c'est un truc avec lequel j'ai grandi. Ils s'utilisent différemment, ils ont vraiment un feeling très différent. J'ai trouvé que c'était quand même moins le cas dans Borderlands et je me souviens plus si c'était déjà comme ça que ça se passait dans le 2 et le 1. J'imagine que oui, parce que ils sont fidèles à ce qu'ils étaient. Donc ça, c'était un truc à savoir si c'est, si vous pensez à acquérir le jeu. Mais dans l'ensemble, il n'empêche, moi je me suis beaucoup amusé, malgré le bien que j'ai dit de nombreux autres jeux ces dernières semaines. C'est celui qui m'a procuré le plus de plaisir. Et je dirais que les gens qui veulent plus de Borderlands sont hyper contents de ce nouvel opus. Donc, et ça fonctionne très bien pour Gearbox, donc tant mieux, quoi. Donc voilà pour mes petites impressions sur Borderlands 3.
Écoute, moi j'ai un petit peu joué pour le boulot, j'ai fait plus des tests de technique. D'ailleurs, la version PC, c'est pas trop ça malheureusement en termes de je sais pas si tu joues sur PC toi.
Alors écoute, je joue sur PC et je suis avec une vieille carte graphique, une 910, et j'ai pas vraiment eu de problème moi. Donc entendu beaucoup de gens qui avaient.
Donc c'est pas que le jeu est buggé ou quoi, ça va, c'est assez propre. C'est qu'en termes d'optimisation pour de l'Unreal Engine 4, donc les joueurs qui par exemple ont un gros PC ultra fat et qui se disent ouais je vais jouer en 4K à 60 fps, et c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que même avec la meilleure config possible, moi j'ai une 2080 Ti au boulot avec un Core i9, hein, voilà, j'ai quand même la machine qui va bien. Même avec cette config là, j'atteins pas les 60 fps en 4K. Alors évidemment, c'est un concours de chiffres et au final on s'en fout, tu vois, ça, l'expérience de jeu reste agréable, mais tu dis que le jeu aurait pu être un poil mieux optimisé, quoi.
D'accord, oui, bon, c'est à noter effectivement,
ouais.
Oui, mais pour moi, je joue pas en méga 4K super.
Oui, non, mais voilà. Après, si on joue en Full HD ou en 2160p, ça reste très correct. Et de toute façon, on va tourner avec une carte graphique récente à 40-50 FPS, ce qui est encore une fois suffisant pour prendre du plaisir, quoi.
Ouais. Un petit mot rapide sur la bêta multijoueur de Modern Warfare qu'on évoquait tout à l'heure. J'y ai joué un petit peu. C'est du Call of Duty, quoi. Je parle du multijoueur spécifiquement. Les ennemis, enfin, on se fait tuer en 2 secondes. Je pense que les gens qui jouaient à la bêta, c'était des gens qui étaient méga fans de Call of Duty et qui connaissent tous les secrets du jeu. Et moi, je me faisais exploser. J'ai eu quand même quelques moments sympathiques. Et Call of Duty, ça faisait longtemps que j'avais pas joué au multijoueur de Call of Duty. Ça a vachement, comment dire, c'est quand même la même chose, ça reste Call of Duty, mais au fil des années, à force de petits changements et de petits changements, il y a énormément de modes différents. Ils ont raffiné le design des cartes et des modes pour s'assurer qu'on soit toujours dans l'action. C'est hyper efficace. Je ne sais pas si j'y passerai du temps à la sortie, mais je crois que c'est plus parce qu'il y aura tellement de jeux à tester que j'aurai pas vraiment le temps de m'y consacrer, mais c'est assez convaincant, quoi, quand même. Et puis Jika, tu voulais nous parler d'un jeu dont Benoît nous parlait la semaine dernière, tu as apprécié aussi, c'est Blasphemous.
Ouais, rapidement, donc CXR, on en a déjà parlé, je vais pas m'étendre, mais sur CXR, je pense qu'il connaît bien le genre. C'est un petit, mes petits coups de cœur de jeu indé. D'ailleurs, c'est pas vraiment indé parce que c'est édité par Team 17, mais bon, bref, c'est développé par un studio que j'aimais bien à la base, qui est assez peu connu, c'est The Game Kitchen, qui est un studio espagnol, qui avait fait un jeu d'aventure qui s'appelait The Last Door. Je sais pas si ça dit quelque chose, mais c'était sorti sur à peu près toutes les plateformes. Je crois que c'est même sorti sur Switch. Moi, je l'avais fait sur iPad à l'époque. C'était un jeu d'aventure horrifique en pixel art, avec une excellente ambiance, très très cool. Et là, en fait, pour leur deuxième jeu, ils ont complètement changé de style puisqu'ils font un Metroidvania, donc vraiment assez classique dans son exécution, c'est qui fait beaucoup penser en termes de mécanique de jeu, de game design, etc. à Hollow Knight, plus qu'à Symphony of the Night. Mais surtout, il a vraiment une particularité, c'est qu'il a un univers et une patte artistique qui est vraiment folle. Il s'inspire en fait de toutes plus le folklore andalou, et c'est très très connoté tout l'univers de la religion, en fait, de la religion catholique, en fait, et qui est complètement perverti. Donc du coup, on va se retrouver avec des crucifiés qui se battent avec leur croix, qui t'envoient leur croix à la tête, mais tu sais, sur le dos, tu sens que c'est du pixel art, mais qui est très très bien travaillé, très bien animé, ce qui fait que chaque combat, chaque mise à bord peut être avec des petits effets gore et tout ça. Donc il y a vraiment une ambiance horrifique et un peu vraiment malsaine, quoi. Il y a vraiment des trucs assez, assez particuliers. Alors il y a un boss, par exemple, c'est un bébé géant qui quand il t'attrape, il te démembre, par exemple, tu vois, pour te tuer. Enfin, des trucs comme ça. Enfin,
c'est vraiment pareil. J'allais en pensant à Zelda et à tous les jeux et à l'avenir du jeu vidéo, avec toutes les choses qui arrivent et qui vont se passer. Moi, je me disais, mais il y a tellement de choses à aimer dans le jeu vidéo, et je ressentais une sorte de bouffée d'amour pour sortir. Et là, tu me parles de bébé crucifié qui t'arrache les bras. Ok, c'est bien les jeux vidéo.
Non, mais vraiment une pure ambiance, un Metroidvania bien exécuté. Bon, qui a quelques petits défauts. Il y a des passages de plateforme un peu relou, et un pic de difficulté, je trouve, à la moitié du jeu qui est un peu désagréable, parce qu'effectivement, là je parle de Metroidvania, mais il s'est influencé malheureusement, mais assez évidemment par Dark Souls sur pas mal de mécaniques, la mort, te faire commencer à un point de respawn. Ouais.
À partir de maintenant, on va décider que quand on précise pas qu'un jeu est influencé par Dark Souls, c'est qu'il l'est. Voilà, ça sera plus ça.
Exactement. Ouais. Non, mais surtout voilà. C'est beaucoup plus Hollow Knight. Enfin voilà. En fait, si vous avez adoré Hollow Knight, si vous êtes en manque de ce genre de jeu en attendant le prochain Silksong, et que vous aimez les univers qui vous prend au trip, assez horrifique, quelque chose qui respire pas la joie de vivre, mais qui est très très beau, clairement Blasphemous, ça vaut largement le coup, quoi.
D'accord.
Switch, moi je l'ai fait sur Switch, elle tourne nickel, quoi.
Recommandation doublée par JK, Blasphemous, effectivement. Écoutez, voilà pour les jeux qu'on a testé ces derniers temps. On a quelques petites news supplémentaires qu'on voulait couvrir. D'abord, évidemment, faire un énorme bravo à Zerator et à tous les streamers et les équipes qui ont travaillé à The Event le week-end dernier. Pour ceux qui ne savent pas, The Event, c'est un événement de streamers, de twitchers, essentiellement initié par Zerator, qui est l'un des twitchers les plus populaires en France, et un événement caritatif, c'est-à-dire que pendant 3 jours, ils font du stream, ils se réunissent tous ensemble dans un même lieu, et tous ensemble stream en invitant leurs spectateurs à donner de l'argent à une organisation caritative, en l'occurrence c'était l'Institut Pasteur, et ils ont réussi à lever 3,5 millions d'euros pour l'Institut Pasteur, ce qui est évidemment une somme complètement folle, et c'est l'un des exemples de ce que peut faire une communauté de joueurs, de positifs, et c'est tellement positif. C'est le bon terme, je crois. C'est tellement plein d'amour. On s'écarte encore de Blasphemous, mais c'est plein de bonté, en fait, tout ça. C'est bon enfant, c'est sympa. Ils sont tous ensemble. Une communauté Internet qui est parfois caractérisée par les clashs et les petites engueulades et les machins. Là, pas du tout. Tout le monde est ensemble et s'amuse. Tu sens la bonne humeur en regardant leur stream. C'est donc la troisième année qu'ils font ce stream sous le nom de The Event, et j'espère qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Ça fait plaisir à voir, quoi, vraiment. Donc, grosse félicitations.
Ouais, et je crois que ils ont battu le record du stream caritatif mondial, hein, qui a rapporté le plus d'argent. Ouais. Même la GDQ, donc Awesome Game News Week, même s'ils en font deux par an, donc c'est différent, mais a récolté moins d'argent, et c'est vrai que c'est assez fou ce. Enfin, l'exploit qu'ils ont réussi, quoi. Lever 3 millions pour un truc caritatif, c'est assez rare, quoi.
Je crois que l'année dernière, c'était une autre association, mais je crois qu'ils avaient fait 1 million.
Oui, c'est ça, en plus. Et donc, quasiment doublé, je pense.
Même triplé, je veux dire. Même triplé. 3,5 millions à la fin des 3 jours. Triplé, ouais. C'est assez incroyable. C'est
passionnant, ouais.
Je ne sais pas si on peut encore donner, si les gens sont. J'imagine que oui, ce genre de truc, généralement, tu ne fermes pas, mais. Tac, tac, tac. Donc, ah si, ils ont fermé, c'est fini. Donc, si vous ne l'avez pas fait, bah, c'est trop tard. Mais il y aura toujours l'année prochaine. Mais oui, donc super, super initiative. Une autre initiative, donc on sait pas forcément si elle est super, c'est celle de Nintendo qui a détaillé son Ring Fit Adventure. Moi, ça m'a l'air sympathique quand même. C'est un accessoire, une sorte d'anneau de pilate qui est une... Je sais pas comment décrire ça, un anneau en caoutchouc qui fait à peu près 30-40 cm de diamètre, dans lequel on insère un Joy-Con et puis on a un autre Joy-Con qu'on insère dans un strap qu'on s'attache à la jambe. Et il y a un logiciel qui vient avec, le Ring Fit Adventure justement, qui nous permet de faire des petits jeux pour faire de l'exercice. Là où c'est différent de ce qu'on a vu par le passé dans ce type d'initiative, c'est que vraiment, il y a une expérience de jeu qui a l'air plus ludique que ce qu'on voit d'habitude. Il y a des mouvements à faire pour sortir un bouclier, pour balancer des boules de feu, pour ce genre de trucs. Donc, c'est un petit peu plus, on va dire, ludique que ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, mentionner quand même les acteurs sur cette vidéo et le script et la direction artistique qui sont... moi, j'avais les yeux complètement écarquillés tout du long de cette vidéo. Allez la regarder si vous ne l'avez pas faite. C'était, on dirait des mannequins parfaits animés, des personnages de pub Benetton, mais encore plus polissés, quoi. Je ne sais pas, c'était particulier. Mais c'est marrant en même temps. Ils savent très bien, je crois, que ce qu'ils sont en train de faire est un petit peu ridicule, mais c'est ce qu'il faut pour l'image de Nintendo. Et enfin, bon, bref, c'est pas mal. Et Mario Kart Tour, qui est sorti sur iPhone, iPad, je sais pas si c'est encore sur Android, donc la version mobile de Mario Kart, qui au départ...
Si, c'est sur Android aussi.
Android aussi, ouais. Au départ, ma réaction était un petit peu dubitative, mais j'ai l'impression que la plupart des gens qui y jouent, il est sorti hier, hein, donc, mais la plupart des gens qui ont joué quelques heures semblent convaincus. Et puis, il y a un abonnement à $5 par mois pour accéder à certains bonus, une sorte de passe à $5 par mois, ce qui fait un petit peu cher par rapport à toutes les offres qu'on a aujourd'hui, comme l'Apple Arcade à $5 par mois qui vous donne accès à 100 jeux. Mais bon, peut-être que les super fans seront intéressés, les super fans de Mario Kart.
Après, moi j'ai le son de cloche, alors peut-être que je travaille dans une rédaction de jeux vidéo et tout ça, mais tous les gens qui l'ont testé trouvent ça vraiment, vraiment pas terrible. Hein. Enfin, c'est déjà de base, la conduite, elle est ultra activée et elle est ultra assistée. Mais autant sur les versions Switch, par exemple, de Mario Kart 8, ça peut être très, très sympa. Là, en fait, ça le plaisir de la conduite n'est disparu. Alors, a priori, tu peux le débloquer. Et le modèle économique, il est quand même pas ouf. Hein. Moi, je trouve que 5 balles par mois pour ce système d'abonnement. En fait, Nintendo, je trouve qu'ils ont du mal à vendre pour le moment encore leur jeu mobile. Alors, je dis pas.
Enfin, Fire Emblem Heroes, à mon avis.
Voilà. Non, mais ça marche.
C'est des lootbox, quoi.
Mais voilà, ça reste des modèles économiques vraiment un peu sales et c'est pas ce à quoi ils nous sont habitués. Alors, ils se sont plantés avec Mario Kart, Mario Run. Enfin, qui me plantait, tout est relatif, mais qui était vendu, je crois, 10€.
10€, ouais.
Qui était beaucoup trop cher pour le coup. Mais du coup, ils ont fait l'extrême inverse, quoi. Donc, Mario Kart Tour, a priori, moi, je sais que j'en ai pas entendu forcément beaucoup de bien jusqu'à présent, quoi.
D'accord, bon. À voir, il est vraiment sorti hier. Peut-être qu'on aura d'autres tours par la suite. Moi, ma partie de test que j'ai fait n'était effectivement pas incroyable. Mais je me demande si c'est pas le genre de truc où tu découvres les subtilités du gameplay en y jouant un petit peu plus, parce que tu y arrives avec ton acquis des jeux à la manette et tu ne saisis pas forcément les petites subtilités qui vont s'installer dans le gameplay quand tu maîtriseras ce type de contrôle. Il y a la possibilité effectivement de le débloquer pour faire des dérapages quand tu veux, il y a ce genre de choses. C'est possible, peut-être que je suis un petit peu trop optimiste, mais je me demande s'il n'y a pas un petit peu de ça aussi. À voir. Une série de petites news rapidement pour conclure. Rockstar a lancé son launcher, donc et GTA San Andreas est gratuit dans le launcher. Donc si vous voulez choper GTA San Andreas, vous pouvez installer le launcher Rockstar. Si ça préconise pas d'une sortie de Red Dead Redemption 2,
oui, c'est ça.
sur PC,
il y a encore eu des fuites là. Un organisme, l'organisme australien du rating, enfin, je sais plus qui le truc a été raté sur PC en Australie, quoi. Enfin, bon. moment donné. Bon, je sais pas, peut-être que effectivement, peut-être que non, en fait, finalement, mais ce serait étonnant quand même.
Ça serait surprenant.
Après, disons que n'oublions pas que le 1 n'est jamais sorti sur PC. Hein,
bah, c'est ça. Peut-être que les deux vont sortir.
Oh, c'est incroyable ça.
Ça serait fou. Et du coup, bien sûr, en ayant leur launcher, ça veut dire que ils n'ont pas besoin de payer les 30, ou j'imagine que Rockstar c'est plus proche des 20 aujourd'hui. Les 20% à Valve, c'est l'un des rares qui peut payer moins la dîme à Valve, mais là, ils auront rien du tout à payer. Et donc, voilà. Electronic Arts a lancé son test de service de cloud gaming. Ce qui était étonnant, on avait parlé d'Ubisoft la dernière fois, je crois, mais le service de cloud gaming, c'était étonnant parce que, pour tout vous dire, j'ai été surpris d'apprendre que Electronic Arts avait un service de cloud gaming, de streaming dans les tuyaux. Et en recherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'ils l'avaient annoncé il y a un an. Donc, ça fait un moment qu'ils en parlent. Quoi qu'il en soit, il est désormais en test. Donc, ça arrive aussi. Et Electronic Arts, je crois qu'eux travaillent avec Amazon. Hein, évidemment, c'est soit Amazon, soit Google, soit Microsoft. Oui, qui a l'infrastructure pour ça. Je crois qu'Electronic Arts travaille avec Amazon pour ça. Et pour le streaming, si vous voulez tester le service Stadia quand il sera disponible en test en octobre lui aussi ou novembre, c'est novembre je crois, Google a relancé un pack de fondateurs qui est un tout petit peu différent du premier, un petit peu moins bien fourni, mais à peine, et donc vous pourrez l'acheter pour accéder au test, bon, qui n'est pas un test selon eux, mais qui clairement est un test, en novembre. Discord a senti qu'il y avait un petit peu trop de concurrence dans les boutiques numériques, donc ils sont définitivement sortis de cette arène en supprimant les jeux de leur service Nitro, donc ça c'est fait. Et enfin, on parlait du fait que The Last of Us Remastered serait inclus dans le PlayStation Plus au mois d'octobre. Et ben, du côté du Xbox Game Pass, il y a Bloodstained qui arrive. C'est dans Game Pass, hein, pas dans le Xbox Live Arcade, mais il y a Bloodstained. Donc, si vous étiez curieux de voir ce Metroidvania Kickstarter qui est sorti il y a 2 mois, et ben, vous pourrez le tester sur le Xbox Game Pass. Et il y a Jump Force aussi. Donc, si vous êtes un méga fan de shonen manga, vous pouvez aller voir ça également. Et puis, une petite note, enfin... vous connaissez Teamfight Tactics, c'est le jeu de auto chess de Riot qui est basé sur League of Legends, bien sûr. Et ben, ils ont annoncé qu'ils avaient 33 millions de joueurs mensuels. C'est comment dire, 33 millions de joueurs mensuels. Déjà que, enfin, c'est pas League of Legends, hein, c'est juste Teamfight Tactics spécifiquement. Et ils vont faire un tournoi d'e-sport spécifique pour Teamfight Tactics, etc. Donc, bon, voilà, Riot, ils sont peut-être en train de travailler sur d'autres jeux, mais c'est pas vraiment par nécessité. Tout va bien pour eux depuis presque 10 ans maintenant. Un truc que tu veux commenter dans toutes ces. Dans tous ces news,
non, dans les brèves, écoute, attends, bah le service de cloud IS, c'est vrai que effectivement, quand la news a remonté là, je me suis souvenu qu'ils en avaient annoncé un, mais ok, d'accord. non, pour le coup, Stadia, c'est vrai que c'est un pack qui est un peu quasiment pareil, quoi. Je crois que tu peux pas offrir. En fait, sur le précédent, tu pouvais offrir un mois d'abonnement à un ami. Là, c'est plus le cas.
Je crois que c'est 3 mois, ouais.
Trois mois, pardon, et la manette est pas de la même couleur, donc ça change pas grand chose, effectivement. Et pour le coup, Discord, c'est malheureusement pas une surprise, hein, parce que je pense qu'ils ont pas les reins assez solides. En fait, les pauvres, entre guillemets, ils ont lancé leur store une semaine ou 2 semaines avant que l'Epic Game Store débarque.
C'est ça.
Donc, le timing a pas été très bon et ils ont pas les reins assez solides pour, et pourtant, je sais pas si je l'ai dit dans cette émission, mais ils ont fait pour le lancement de leur store, une des meilleures vidéos promotionnelles pour un store avec une chanson qui te reste en tête.
Ils font souvent ça chez Discord.
C'est indescriptible. Hein. Je vous conseille de si vous cherchez Discord store song ou clip, voilà, c'est complètement débile, mais c'est très drôle. Donc
voilà. Dans l'esprit de Discord, ouais.
Voilà.
Ok, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de cet épisode. Merci JK de t'être joint à moi. C'était un plaisir de te retrouver dans l'émission.
Eh oui, ça y est, je pense que là, on va essayer de faire ça une fois par mois. Hein.
Oui, on y est régulièrement. Yeah. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs où ils pourraient te retrouver s'ils ont perdu ta trace ?
Bah là, ça, en plus, surtout que ça a changé depuis la dernière fois. Donc maintenant, vous pouvez me retrouver sur jeuxvideo.com pour tout ce qui est tech, hardware. Et aussi, dans des émissions, dans le journal du hardware, pas tous les vendredis, mais au moins deux vendredis par mois, c'est en direct de 16h30 à 18h30, on parle de tech. Dans le journal du midi aussi à 13h20, tous les mercredis, où j'ai une chronique tech. Voilà, et bien entendu, j'ai QSD. Par contre, ça ne change pas. Hein. Ça fait maintenant 7 ans peut-être qu'on fait cette émission et on vient d'enregistrer avant-hier l'émission de rentrée, une chouette émission où on accueillait Fanny Rebillard, je ne sais pas si vous connaissez, elle est musicologue et archiviste numérique spécialisée dans la musique de jeux vidéo. Donc on a parlé de la musique de jeux vidéo et surtout de la façon dont on peut étudier la musique de jeux vidéo. Donc voilà, très 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 chouette, très très chouette émission de rentrée. Ça devrait être publié avant octobre, on y croit. Si Oupi se motive pour faire le montage, quoi.
Il faut envoyer quelques messages d'encouragement, on va dire, à Oupi. Hein.
Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout.
Super, bah merci beaucoup Jika. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr pour venir laisser des commentaires sur tout ce qu'on a dit, toujours dans la bonne humeur bien sûr, des choses qui vous ont intéressé, qui vous ont intrigué, avec lesquelles vous êtes d'accord ou pas, évidemment. Et puis, on se retrouve comme toujours dans 2 semaines. Il y a Destiny, l'extension qui sort dans quelques jours à peine et je suis fébrile. Comme je disais, il y a tant de choses à aimer, mais c'est quel bonheur d'être un fan de jeux vidéo. Ces années et les années à venir, c'est... tout ça, ces sentiments me sont procurés par Destiny, c'est dire comme j'ai une relation particulière avec ce jeu. Je vous fais des bises, bien sage, et puis on se retrouve dans 2 semaines. Ciao à tous!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.